Parker, good evening. Vous êtes sur Musgueule, la radio des francophones et des francophiles. Alors, une petite équipe réduite ce soir. Je suis avec Anne-Sophie. Bonsoir, Anne-Sophie.
Bonsoir.
Et Blandine, donc au micro, avec Brogan en visiteur. Alors, moi, j'arrive de France. Je suis arrivée ce matin.
Littéralement.
Donc, littéralement.
Oui.
Donc, je suis encore dans le bas, on va dire, et un petit peu fatiguée. Mais bon, c'est avec grand plaisir que je passe la soirée, une heure de cette soirée avec vous. Et puis, on va commencer par une petite musique.
Oui, alors je vous propose Tomber pour la France, un remix de Dorian, d'après une chanson de Dao.
D'accord, très bien.
Biba pieds nus sous la lune, sans foi ni toi ni fortune, je passe mon temps à faire n'importe quoi sur les pistes, noir de préférence, quand le démon de la danse me prend le corps, je fais n'importe quoi. Tout va bien, tout va bien. Sur un jerk électronique, se nouent des amours ludiques. Bebop, la vie, c'est n'importe quoi. C'est la fête, c'est psychédélique. Me demande pas ce que je fabrique, je te répondrai n'importe quoi, j'en sais rien.
C'est une reprise ou c'est
non,
non
c'est une
on dirait vraiment, on dirait un peu la voix de Dao en
ouais,
fait.
Ouais, c'est une reprise. C'est une reprise de Dorian.
Mmh.
Alors je sais pas qui est Dorian,
mmh,
mais c'est une reprise. Et d'ailleurs, il y a eu une grosse compilation. Je crois que ça s'appelait Tomber pour la France ou je sais plus. D'ailleurs, je l'ai quelque part, je peux la retrouver. Mmh. Une compilation où il y a plein de jeunes artistes chanteurs français qui ont fait des reprises de tout le portfolio d'A.O.
Génial.
Un double album avec toutes ses meilleures chansons,
c'est
reprises
marrant,
par
c'est
des nouvelles voix.
Une atmosphère particulière d'A.O., je trouve.
Ça, tout à fait.
Ça rappelle des choses bien précises. Alors moi, je voulais vous parler de plusieurs choses. La première chose dont je voulais parler, c'est du... En allant en France, à chaque fois, je retrouve ma famille, mes amis, et dont une de mes cousines, Anne, qu'on appelle Iggy les bons tuyaux. Elle nous fait toujours découvrir des choses. C'est une spécialiste du développement personnel. Donc, elle connaît toujours... L'année dernière, je me souviens, elle nous expliquait comment planifier les buts à long terme, moyen terme, court terme, etc.
Et les là, buts.
Oui, les goals. Si je te dis les goals, tout de suite, tu vas...
Oui,
non, tu vois,
d'accord.
Les objectifs qu'on peut
faire,
etc. Pour, et alors, cette fois-ci, on a eu une grande discussion sur le rangement. Et en fait, le rangement, c'est parti. Elle m'a fait acheter... Elle avait un livre, et puis je l'ai acheté directement en venant de chez elle, parce que c'était assez impressionnant de voir ça chez elle. C'est une japonaise qui s'appelle Marie Kondo. K-O-N-D-A, je suis comme David, j'appelle. Et donc, elle, en fait, elle a un drôle de, elle est japonaise. Et elle a un drôle de boulot, c'est qu'elle, elle est consultante en rangement. Alors bon, c'est quelque chose qui me touche, hein, parce que moi, je suis quand même née bordélique et j'ai encore beaucoup de mal à ranger les choses chez moi. Et donc, ça m'a parlé. Et elle a écrit plusieurs livres, dont L'art du rangement, qui est maintenant en livre de poche, qu'on trouve...
très connu, ouais.
Voilà, donc elle en a vendu, je crois, 2 millions d'exemplaires.
Oh là là.
Dans le monde, hein, avant que ça apparaisse en France. Et donc c'est une femme qui était très jeune. Donc alors son livre, elle raconte comment elle est, comme de quelle façon très jeune, c'est quelque chose qui l'a fasciné, le rangement. Donc
chacun son truc.
Oui,
hein.
Chacun son truc. Mmh. Et donc elle prête une grande attention à ça. Il paraît qu'elle faisait des offensives dans les chambres de ses frères et sœurs. Une fois qu'elle avait rangé sa chambre et qu'il fallait qu'elle range autre chose, elle s'attaquait. Mais bon, et donc elle explique un peu les fausses routes qu'elle a prises, etc. Et que bon, aujourd'hui, même en tant que consultante au départ, elle raconte certaines choses dont elle se rend compte au fur et à mesure en travaillant avec les gens. Et donc elle explique plusieurs principes qui sont excellents. Alors la première chose, moi, que j'ai découverte chez ma cousine, c'est une façon de plier les fringues. Donc en fait, par exemple, si on a un t-shirt, on le retourne, donc on le met sur le ventre, on le pose sur le ventre, on le plie à moitié, c'est-à-dire on replie un côté qui arrive sur la moitié du t-shirt, on replie toute l'autre moitié complètement sur cette moitié, ensuite on se retrouve avec une espèce de long rectangle qu'on replie de nouveau en deux, puis de nouveau en deux, ça fait comme une sorte de portefeuille, ce qui fait que le t-shirt, le short, la chemise, enfin la chemise sauf si on veut la pendre, ou le pantalon, tout tient debout en fait. On pose et ça se retrouve, ça tient debout. Et on les met comme ça les uns derrière les autres dans des boîtes à chaussures ou dans des tiroirs, ce qui fait que, et je l'ai expérimenté avec les enfants, parce que moi, mes valises, faut les voir. Hein. Ma sœur, qui elle-même est assez fantasque, elle nous voit piocher dedans, c'est vraiment tout est en vrac dedans, c'est même pas plié chez nous. Et donc là, je l'ai fait avec les enfants, ce qui veut dire que on voit sur la tranche, en fait, on se retrouve avec des tranches de vêtements et on voit sur la tranche quels sont les vêtements. Et donc en deux secondes, on trouve le t-shirt, la paire de chaussettes, le pantalon. Donc ça, on peut le mettre dans une valise et dans les tiroirs. Et ce qui fait que quand on revient de voyage, hop, on n'a plus qu'à reprendre les fringues et les remettre dans les tiroirs, toujours en suivant le même principe de rangement. Donc, j'ai vu ça chez ma cousine, je me suis dit, c'est fantastique. Donc, tout de suite, on a fait toutes les valises comme ça. Vous voyez, je suis une accro. Et ça devient automatique, on plie tout en portefeuille. Après, ça devient une sorte de manie. Mais en tout cas, c'est... oui, ça fonctionne bien, ça prend pas beaucoup de place. Mais bon, sa méthode à elle, ça consiste pas seulement à plier les fringues, ça consiste en premier lieu à tout nettoyer dans la maison. Tout nettoyer, c'est-à-dire jeter en fait des sacs et des sacs de poubelle, et c'est ce qu'elle fait chez les clientes. Il y a un article de l'Observateur qu'on mettra sur le blog qui s'appelle 10 commandements de la papesse du rangement, et ils ont une photo de la chambre d'une de ses clientes avant et après. Tu vois, je te montre Anne-Sophie, c'est assez rigolo.
Bah oui, mais enfin, elle a viré l'ordinateur et la moitié des livres.
Mais ça,
moi,
ça
déjà, ça passe pas, ça.
Alors, c'est ce que me disait ma sœur aussi, pour les livres en tout cas. L'ordinateur, il est certainement rangé dans un endroit à laquelle la personne peut accéder facilement. Les choses sont rangées de façon assez... les choses, chaque chose est rangée au même endroit sans arrêt et il est d'un accès facile. Donc si là on voit plus l'ordinateur, il a dû être casé autre part ou elle lui a fait acheter un portable. Ou, enfin bon, on sent le.
D'accord.
Elle trouve des solutions de rangement avec chaque personne en fait. Et alors, mais le nettoyage, je me suis dit, et même avec les livres, pourtant justement. Justement, c'était assez intéressant de voir. Moi, donc ma sœur déménageait aussi pendant que j'étais en France là, et elle a, je sais pas au bas mot, elle doit avoir 1200 bouquins dans un appart qui est pas si grand que ça quoi. Et quand je dis 1200, et donc il y en avait des boîtes et des boîtes entières hein, avec il fallait de nouveau recaser tout. Alors que j'ai un beau-frère qui passe sa vie à faire des étagères qui se remplissent aussi vite qu'elles sont faites. Mais là, bon, il se posait la question, il pouvait pas mettre des étagères partout, donc. Alors, je reviens au livre, parce qu'elle dit qu'il y a plusieurs catégories et qu'il faut vraiment faire le nettoyage en cet ordre-là. Et surtout pas commencer par les livres, parce que c'est justement un petit peu, c'est difficile à acheter.
Ah, c'est
livres.
Trop difficile.
Donc elle dit, il faut commencer par les vêtements. Donc, ce qu'elle préconise, c'est de prendre tous les vêtements, c'est-à-dire dans les armoires, dans les penderies, dans les cartons qu'on a laissés de côté pour l'hiver prochain. Ceux qu'on va peut-être donner, ceux qui sont dans le garage, qu'on n'a pas encore triés, enfin voilà. De faire un gros tas de tous les vêtements dans une pièce. Alors là, déjà, elle dit, déjà c'est effrayant, quoi. Déjà, on se rend compte de l'ampleur de la chose. Et ensuite, elle demande à ses clients et à ses lecteurs par la même occasion de prendre un à un ses vêtements et de dire, est-ce que ce vêtement m'apporte du bonheur. Est-ce que ça m'apporte de la joie, quoi? Oui, ça te semble bizarre. Mais en fait, elle dit, ce qui se passe, c'est que des règles toutes fixes en disant, vous devez garder 10 fringues été, 10 fringues machin, etc. La réalité, c'est qu'on met que ce qu'on a envie de mettre. Et souvent, dans une armoire, il y a des choses qu'on met rarement, il y a des choses qu'il y a un pull qu'on aime bien, mais qui gratte, donc il apporte pas vraiment du bonheur. Enfin, voilà, ça tourne autour de cet ordre-là. Et donc en fait c'est simple, en général c'est des sacs et des sacs de poubelle hein, quand elle commence à travailler chez ses clientes. Ce sont des Japonais qui ont des petits espaces, donc ils sont d'accord j'imagine pour se prêter à l'exercice. Et donc une fois que tous les alors elle parle des, il y a des choses marrantes, par exemple elle parle d'exemples de clientes, une cliente qui avait récupéré toutes les fringues de sa sœur qui avait justement nettoyé son armoire mais voulait pas acheter ses fringues parce qu'elle y était attachée émotionnellement et donc les refilait à sa sœur qui bon les prenait et puis se retrouvait bon voilà. Elle disait il y a des espèces de vases communicants dans les familles aussi qui parfois ou entre amis qui fait que bon les choses sont pas si claires que ça. Donc voilà, elle dit de commencer par les vêtements. Ensuite, les vêtements, de les ranger. Elle a plusieurs principes qu'elle dit avoir bien travaillé avec différents clients, elle-même, etc. Par exemple, elle dit que le principe de garder, d'avoir ce qu'ils font beaucoup au Japon et puis que pas mal d'entre nous font aussi, c'est-à-dire d'avoir des caisses avec les affaires d'hiver, affaires d'été. Elle dit c'est aussi tout doit pouvoir tenir dans votre armoire normalement. Alors à moins qu'on ait effectivement un boulot dans la mode, j'imagine que ça se passe différemment, mais. Donc voilà, et déjà là, elle dit, c'est vrai que moi je pensais aux fringues que j'ai, pourtant moi je suis quelqu'un qui jette jamais et qui utilise énormément, mais la réalité c'est que j'utilise pas beaucoup de choses dans ma garde-robe, je suis pas quelqu'un de... J'adore les fringues, mais bon, j'en achète rarement, etc. Donc je me disais, effectivement, je pensais à mon armoire, je me disais, effectivement, il y a des choses dans mon armoire. Par exemple, j'ai récupéré chez ma grand-mère l'année dernière quelques pulls, un que je mets tout le temps, deux que je mets jamais. Et en même temps, j'ai l'impression, ma grand-mère est morte l'année dernière, j'ai l'impression d'acheter à la poubelle si je jette le truc. Et en fait, elle dit, par rapport à ça, faut savoir se détacher de ce genre de truc, lui dire, voilà, ça vient d'elle, et ben maintenant je vais le donner à quelqu'un d'autre qui va le mettre. Et en mettant, voilà, ma grand-mère continuera à vivre par la personne qui le mettra. Je suis pas forcée d'être la personne qui va mettre ce pull-là. Donc le premier, ce sont les vêtements, avec cette technique de vêtements, de pliage révolutionnaire à mon goût. Ensuite, les livres.
C'est quoi la technique pour...
La technique, c'est de pareil. J'ai fait ça avec ma sœur et j'ai repensé à ma bibliothèque et je me suis dit, même chose en fait. On a regardé avec ma sœur et on a pris les... En fait, l'idée, c'est de prendre les livres un par un, de même qu'on prend les fringues un par un. C'est prendre le temps en fait, parce que le nombre de livres qu'on a... Il y a des livres qu'on a lus qu'on n'a pas trouvé fantastiques.
C'est vrai.
Ceux-là, pourquoi les garder dans notre bibliothèque? Pourquoi pas les refiler à quelqu'un? Pourquoi les garder là, quoi? Parce que même si quelqu'un vient chez nous, on va peut-être pas lui recommander ce bouquin, on l'a aimé, mais bon, pas au point de, mais on l'a gardé parce que bon, d'autant plus que nous, on est en Nouvelle-Zélande, c'est une denrée rare, le bouquin, donc voilà. Donc on s'est attaqué au carton de ma sœur. J'ai dit, écoute, on va faire un petit travail, on va voir comment ça fonctionne. Et effectivement, on a réussi à en... Alors, j'en ai récupéré au passage. Qu'on fini dans ma valise, juste au nom de la rareté des livres français en Nouvelle-Zélande. Mais donc, on les a pris un par un. Ma sœur adore la photographie depuis toujours. Même dans les livres, il y avait des vieux livres d'histoire de la photographie complètement nazes, des vieux bouquins qu'elle avait jamais ouverts ou une fois ou deux. Elle regarde. Alors, par contre, elle m'a dit il faut que je feuillette. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est de la photographie, donc elle pouvait voir d'un coup très rapide. Oui. Parce qu'elle dit attention, le gros problème des bouquins, c'est qu'on commence. Elle dit vous commencez pas à les lire là, parce que on est tenté de commencer. Ah oui, puis on regarde les quatrièmes de couvre, et puis on a réussi à être assez efficace en fait et à Et en fait, s'il s'agit pas de les jeter, en plus on les donne, donc ils sont réutilisés. Mais c'est ça, les livres. Alors elle dit aussi de balancer les livres qu'on voulait lire et qu'on n'a jamais lus. Alors ça, moi je suis moyennement d'accord là-dessus pour le coup, parce que il m'arrive d'acheter des livres et de les lire très 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 longtemps après.
Oui,
et
moi
je
sais aussi.
Ils sont là dans le fond de mon armoire, etc. Donc ça, je suis un peu moins d'accord sur le principe. Ceci étant, j'ai acheté une époque, je sais pas combien de bouquins d'un mec qui s'appelle Michel Rio, que j'ai toujours dans ma bibliothèque, que j'ai jamais lu. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'ils font là? Je sais plus ce qui m'avait fait acheter autant de livres de ce mec-là. J'imagine qu'une copine m'avait dit qu'il était bien ou, et j'ai jamais réussi à le lire. Alors, je sais même pas si j'ai tenté le coup. Enfin, c'est assez bizarre, quoi. Donc je me suis dit, ceux-là, est-ce que ça vaut le coup de les garder? C'est vrai que j'ai jamais touché en 20 ans. Ils sont toujours là, attendent. J'ai pas particulièrement envie de les lire non plus, donc voilà. Et donc avec ma sœur, on a réussi à en mettre pas mal de côté. Qu'on était assez étonnés. Elle-même était étonnée du nombre de livres qu'elle pouvait mettre de côté. Donc en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est, on parlait d'un truc tout bête. Le guide, moi j'ai le guide du Japon par exemple. Enfin, le guide du Japon, j'aimerais bien retourner. Mais bon, le nombre de guides. le nombre de guides de voyage. Qu'on garde, parce que bon, c'est quand même un bouquin, etc. Aucun intérêt, quoi. La réalité, c'est que si on le garde plus de 10 ans, il est obsolète, le truc. On va même pas pouvoir le refiler à quelqu'un. Et c'est vrai que souvent, on les garde, les livres de voyage.
C'est vrai.
Voilà. Il y a, donc le livre, comme je disais, le livre qu'on a moyennement aimé. Est-ce qu'il mérite d'être dans la bibliothèque? Je crois pas. Le livre qu'on nous a offert, qu'on garde parce que c'est quelqu'un qui nous l'a offert. Oui, mais bon. Voilà, elle disait, si c'est, on tient un livre parce qu'il nous a été offert, mais en fait, on n'aime pas ce livre-là. Bon, on peut le passer. C'est ça aussi, c'est que c'est, elle parle des objets comme presque comme des êtres vivants. C'est un petit peu excessif d'ailleurs. Elle remercie sa maison. Enfin bon, elle est très, mais c'est vrai que c'est vivant. Si on le passe à quelqu'un d'autre, c'est vivant. Donc le fait de donner, c'est pas de jeter. Ça veut dire que ça va avoir une nouvelle vie. Alors que chez nous, ces objets-là sont en train de, ces livres sont en train de croupir, alors qu'ils pourraient être lus par d'autres personnes. Donc il y a une histoire de dynamisme. Elle parle souvent. Ça m'a fait penser à la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, j'ai une amie japonaise qui me disait souvent que, en parlant de la Nouvelle-Zélande, elle me disait c'est incroyable les ressemblances entre le Japon et la Nouvelle-Zélande. Elle parle d'aérer beaucoup la pièce. Elle parle sans arrêt d'aération et de quelque chose de vivant toujours. De jamais laisser les trucs dans les fonds de tiroir, etc. Et son principe, il tourne autour de ça, c'est-à-dire que quelque chose, de pas laisser traîner les choses, que tout soit à portée de main et de permettre justement de que les choses soient utilisées, que si elles sont pas utilisées, elles ont pas lieu d'être là et que elles encombrent un espace qui souvent empêche de penser clair, etc. Alors dans les objets ensuite, elle parle des petits objets. Alors les petits objets, c'est tout quoi. Ça peut être les petits trucs de vaisselle, ça peut être les tiroirs qu'on a tous chez nous avec les choses qu'on veut garder au cas où, qu'on n'utilisera jamais parce qu'au moment où on a besoin, on sait même pas où ça se trouve.
Puis il y a le fameux tiroir fourre-tout.
Voilà.
Le tiroir fourre-tout. Il y a tout là-dedans.
Elle parle aussi des pièces de monnaie qui traînent partout. Elle dit la première chose, mettez en votre porte-monnaie, ça n'a rien à faire. On se dit tout le temps, je retrouverai peut-être si j'ai besoin d'argent à ce moment-là. Mais la probabilité de trouver la pièce en question au moment où on en aura besoin, elle n'est pas... Donc elle fait tout mettre dans le porte-monnaie. Elle a un principe aussi, elle a... Son sac à main, grave problème féminin, nos sacs à main qui sont pleins de bazar. Et en fait, elle, quand elle rentre le soir, et elle dit que ça lui prend pas longtemps, parce que pour le coup c'est rangé, elle a une espèce de petit plateau dans lequel elle met tout ce qu'il y a dans son sac, c'est-à-dire ses clés, son téléphone, tous les tickets, tu sais, les tickets de carte bleue, là, qu'on garde, qu'on n'en fera rien, elle les jette, ou alors elle les trie si jamais il y a un truc qu'elle. Mais elle fait ça, elle a une sorte de. de petit rituel en rentrant qui lui prend 5 minutes, mais qui fait que tout son sac est vidé à chaque fois pour le et qu'elle le remet le lendemain. Parce que bon, c'est une japonaise, je pense qu'elle a plusieurs sortes de sacs. Moi, perso, j'ai toujours le même. Donc, mais j'ai trouvé l'idée en fait de vider pas mal, parce que moi, je me retrouve parfois à des choses. Les jours où je fais mes grands nettoyages de sacs, c'est effrayant. Et je retrouve des choses, des billets d'avion justement qui datent d'il y a 6 mois, qui n'ont pas grand-chose à faire là. Donc la partie petits objets, elle est assez. Elle parle de plusieurs catégories dans son livre, justement, en expliquant comment on peut se débarrasser de ces choses-là. Les modes d'emploi des machines, etc. Alors, je pense que Brian ne s'est pas d'accord avec moi parce qu'il vend les choses sur TradeMe et c'est bien quand on vend des objets d'avoir les modes d'emploi. Mais elle dit, c'est vrai que tous les modes d'emploi, on les trouve en ligne, en fait, maintenant.
Oui, c'est vrai.
Donc, à quoi ça sert de garder le papier en question? Effectivement, on peut... Même les papiers administratifs, les vieux comptes en banque, etc. Il y a des dates limites. Il faut garder les papiers à un certain temps. Passer un certain temps, ils sont plus utiles. Donc ça, c'est pareil. En même temps, c'est des choses dans lesquelles on ne veut pas se replonger parce que, mais bon, lorsqu'elle fait ses grands nettoyages avec ses clientes, elle explique qu'elle jette un nombre à chaque fois incroyable de poubelles. Et puis, les papiers personnels. Alors ça, c'est les lettres. Les anciennes lettres, tout ça. Alors ça, en plus, c'est un truc qui disparaît de plus en plus. Hein. Je pense que la génération qui a 20 ans aujourd'hui, ils n'auront plus ça. Mais les anciennes lettres d'amour, machin, les... Alors ça, elle dit, bon, pareil, c'est... On a le souvenir en soi. Moi, je sais que je suis retombée sur des lettres. Et en fait, la seule chose qui m'intéresse avec les anciennes lettres d'amour, etc., c'est que j'avais, par exemple, j'avais une petite boîte avec une photo d'un ancien amoureux avec une espèce de petite bague en plastique que j'avais dedans. Je voulais l'acheter et en fait, j'ai vu ma fille l'ouvrir... Et regarder, se demander qui était ce mec, et refermer. Je me suis dit, bon, c'est quand même pour les enfants, pour c'est quand même un endroit, c'est quand même quelque chose d'assez, une lettre d'amour, etc. Pas les nôtres, parce que les relire, en fait, ça n'a aucun intérêt. Hein. J'ai relu des trucs.
Ça je suis d'accord avec toi.
Passer le temps, ça n'a aucun intérêt.
C'est plus du tout relevant.
Voilà, voilà. Non. Même les journaux intimes, etc. On raconte nos vies qui ne sont pas passionnantes. Hein, pour... enfin, elles le sont parfois, mais bon, on ne s'appelle pas tous Alexandra Davinel. Quoi. Et donc, tous ces papiers-là, au bout du compte, elle dit, on peut effectivement, ces lettres d'amour, on peut les jeter. Quoi. On les garde, il y a une espèce de sentimentalisme, mais on les garde, mais... On les relit pas, elles sont juste là. Alors moi, le seul truc qui me fait garder ces choses-là encore pour l'instant, c'est de me dire, le jour où je disparais, si quelqu'un tombe dessus, moi, ça m'aurait fait délirer de tomber sur des lettres d'amour de ma grand-mère, par exemple, quoi. Ça m'aurait, tu vois, ou de ma tante. Enfin, je sais pas. C'est des choses, je me dis, ça peut être marrant pour des gens de tomber dessus. Après, et cette histoire de rangement aussi, ça m'a marqué parce que justement, l'année dernière, comme je le disais, je suis retournée en France au moment de la mort de ma grand-mère. On a vidé son appartement. Et c'est vrai qu'en vidant son appartement, on a regardé les fringues ensemble avec ma tante. Parce que c'était le truc un peu le plus émotionnel qui lui faisait le plus mal. Donc en fait, on a fait ça ensemble. Et on a donné bien sûr les trois quarts, hein. Et le reste de la baraque est parti à la décharge en fait. Donc ça a été récupéré par des gens qui ont peut-être récupéré de l'argent là-dedans. Mais c'est-à-dire qu'on n'a même pas pu, comme ma tante, moi je suis revenue ici et tout le monde était occupé. C'est ma tante qui s'est retrouvée à faire ça toute seule. Elle pouvait pas s'amuser à vendre les trucs. Il fallait que l'appartement soit vidé rapidement. Résultat, tout a été jeté comme ça. Donc,
pareil pour mes grands-parents l'an dernier. Il y a quelques années maintenant,
Donc c'est fou le recyclage, et c'est marrant, je parlais avec une de mes tantes là qui approche des 80 ans, et elle me dit, j'essaye de nettoyer au maximum, et t'as pas mal de gens qui font ça en pensant justement aux gens derrière qui vont être obligés de vider toute la baraque. Et alors les gens qui partent en maison de retraite, pour le coup, ils sont obligés de faire ça à soi-même. Moi, j'ai vu la grand-mère de Brogan qui a fait ça toute seule au moment où elle partait en maison de retraite. C'était assez dur de la voir jeter toutes ses affaires. Mais donc voilà, en voyant cet appartement à la mort de ma grand-mère, je me suis dit, on garde quand même un sacré nombre de choses inutiles. Et alors, c'est là où inutile, le mot est à mettre entre guillemets, parce que justement son principe est de dire, est-ce que cet objet me rend heureuse. Je trouve que c'est bien comme principe, c'est-à-dire qu'un truc peut être inutile au bout du compte, mais apporter ça peut être un petit caillou. Moi j'ai un petit caillou que m'a offert une copine avec Smile dessus, je l'adore ce truc-là, parce que c'est vrai que quand je le regarde, je dis et pourtant c'est pas vraiment utile, hein. ça a quelque chose de donc utile, en tout cas quelque chose qui fait que elle dit quand je regarde autour de moi dans ma chambre, chaque objet a une valeur, me rend heureuse quand je le regarde, etc. donc l'idée, c'est pas tant une utilité qu'une raison d'être, une vraie raison d'être là dans la maison, plutôt que de remplir un espace avec trop de choses. Et alors c'est marrant parce que on finit avec les photos, bien sûr. Alors les photos, elles disent pourquoi mettre les photos à la fin. Elle dit déjà on s'est rodé un peu au système de jeter, donc on est un peu moins
sentimental,
on devient un peu plus efficace, le temps aidant. Et puis elle dit les photos ça se retrouve partout, dans les bouquins, dans le tiroir à bordel, enfin ça se trouve partout. Donc elle disait comme ça au moins on est sûr d'avoir toutes les photos, on va pas en retrouver encore. Donc elle termine par ça, et aussi parce que c'est effectivement super émotionnel, et donc elle dit qu'elle fait des albums en fait, et qu'elle fait des albums avec ce qui vaut le coup, et puis ce qui vaut pas le coup elle le jette. C'est vrai que des photos de vacances d'une montagne machin quelques années plus tard ça vaut pas grand chose en fait. C'est donc voilà, elle fait aussi un bon classement et tri des photos.
Ça me fatigue rien que de penser au boulot, quoi.
Oui, le truc énorme, et en même temps il y a quelque chose de d'agréable dans l'idée d'avoir un espace vider un peu de choses encombrantes, pas de superflu, parce que le superflu a du bon, mais ouais, de choses encombrantes qui en fait elle disait ça correspond, c'est une mentalité qu'elle dit, en fait elle disait quand elle travaille avec les clientes c'est pas que leur maison qui se nettoie, c'est leur tête aussi, c'est leur par exemple elle donne un exemple super d'une femme qui en triant ses bouquins n'a gardé que des bouquins qui parlaient d'une discipline qu'elle avait toujours aimée depuis toujours, je sais plus de quelle discipline il s'agissait, et en se rendant compte de ça elle s'était mise à étudier en fait le sujet en question, parce qu'elle avait vu ok, tout ce qui me reste dans la bibliothèque c'est que ça, donc c'est ça ma vie, c'est un truc qui m'intéresse, pourquoi je bosse pas dans ce domaine qui m'intéresse tant, etc. Et donc elle disait que ça clarifie, enfin ça, l'esprit devient plus clair en termes de choix, etc. C'est une attitude d'ensemble qui fait que on est plus efficace, plus clair, enfin qu'il y a des effets secondaires positifs en fait. Et puis ensuite ça dépend des personnes, c'est assez amusant parce que par exemple j'avais le livre et elle dit le livre, bah, d'ailleurs une fois que vous l'avez lu donnez-le, quoi, parce que il n'y a pas de raison de le garder. Une fois que vous avez lu, vous comprenez les principes, inutile de le garder chez vous dans votre bibliothèque, quoi.
Fais passer, ça m'intéresse.
Et donc en France, je me disais, bah, à qui je peux le passer, à qui. Alors c'était drôle parce que j'ai des copines qui sont des folles du rangement. Je me dis, bon, toi, oui, elle jette systématiquement, etc. D'ailleurs, moi, je trouve que ce sont parfois des espaces un peu tristes, mais bon, ça, c'est une autre question. Et puis, j'ai une autre copine qui est chercheuse à Montpellier qui me dit, mais moi, je suis très, très bien dans mon bordel, quoi. J'ai absolument pas envie de vider, si tu veux, pour elle, c'est un mode de vie auquel elle adhère et dans lequel elle se sent bien. Et donc, pour elle, il était hors de question de se prêter à ce genre d'exercice. Donc, c'était assez marrant de voir les réactions des différentes personnes. Et donc oui, je voulais le passer une de mes tantes, mais je suis partie avant, et je crois que je l'ai dans mes valises, donc je te le passerai, tu verras ce que t'en penses. Alors, il y a un côté un peu femme actuelle quand même, hein, parfois dans sa façon de parler, faut être clair. Mais écoute, je trouve que les principes sont bons, et je suis revenue. Bon, nous on a quand même un garage qui est plein à craquer de choses inutiles, donc bon, il va falloir qu'on attaque ça. Mais en tout cas,
t'as l'intention de t'y mettre.
J'ai l'intention de m'y mettre. Ça m'a donné l'énergie. Donc, on est en train de commencer par la maison et les vêtements là, mais oui, à peine arrivée, je me suis dit je m'y mets. C'est pas, j'ai envie de faire ça. Ça me dit bien. Et puis bon, j'ai pour les livres aussi, je crois que je vais faire un tour sur les livres. Et c'est vrai que j'ai des bouquins qui m'intéressent pas forcément, qui n'ont pas forcément grand chose à faire dans ma bibliothèque, donc voilà, quoi. Donc voilà, alors donc elle s'appelle Marie Kondo, elle a fait plusieurs livres, mais l'art du rangement c'est son best-seller, c'est celui qui est le plus connu. Il existe en livre de poche. Oui, même elle a l'air un peu, tu sais, gentille, quoi. Tu vois, mais bon.
Oui, moi, c'est la bobonne à la maison, quand même.
Il y a un petit côté comme ça, ouais. Et à côté de ça, elle traite avec des nénettes qui sont justement des nénettes, des femmes d'affaires, des machins qui ont toutes des boulots pas possibles. Et c'est vrai que quand on est, moi je sais, je me perds tellement dans mon bazar que je demande toujours à mes copines rangeuses de venir me filer un coup de main, quoi, parce que on se laisse vite dépasser par le truc. Donc pourquoi pas consultante, et puis ça a l'air de marcher en plus, et son bouquin s'est vendu, donc super bien. Je pense qu'il y a une vraie demande en fait chez toutes les personnes.
J'ai une collègue de bureau qui swear by it. Alors, ouais. Je ne sais pas comment dire en français, ouais. Mais bref, qui ne jure que par ce livre. Ouais. Et qui donc me fait la grosse promotion de comment plier ses vêtements et organiser sa penderie et tout. Bon, j'avoue qu'à l'écouter, elle m'a même envoyé une vidéo et tout. Enfin, elle était à fond dedans. J'avoue que quand j'ouvre ma penderie, mais le problème aussi, moi, je regardais ma penderie, je me disais, alors, j'ai 8 t-shirts blancs.
Oui.
Alors, comment je sais que je prends le t-shirt blanc qui a le col V ou pas le col rond ou pas le. Qui a les manches légèrement longues.
C'est ce que m'a dit mon fils. Je peux voir. Alors,
on ne sait pas.
Je pense qu'il doit y avoir des astuces dans le moyen de plier. Il doit y avoir une astuce pour pouvoir replier de façon à avoir l'élément.
Le col, l'élément qui. Mais ma collègue m'a dit, oui, mais t'as pas besoin de 8 t-shirts blancs. C'était ça la réponse, en fait.
Mais ça dépend, on a chacun des. 8 t-shirts blancs, si je les mettais, mais c'est vrai, Mais bon, pareil, même chose en pensant à son truc, là, notamment au rangement avant. Moi, je plie mes affaires bien soigneusement, et effectivement, tu tires un t-shirt.
Tout
s'écroule.
Oui, puis ça s'écroule aussi par derrière.
Dans tous les sens, quoi. Il y a la fin, c'est une espèce de mayonnaise avec tout.
Faut tout replier.
C'est latéralement, etc. Donc, l'autre chose, en parlant de rangement, elle parle aussi elle dit ça sert à rien d'acheter des trucs super compliqués pour ranger ses fringues. Elle dit des boîtes à chaussures, c'est impeccable. Les boîtes à chaussures, pour elle, c'est le truc impeccable parce qu'avec son système de pliage, là, justement, ça rentre pile poil dans une boîte à chaussures. Et donc, elle dit que c'est pas la peine, on peut récupérer, pas la peine de dépenser des fortunes en boîtes, en plastique, en machin. Elle dit aussi que les boîtes en plastique profondes, moi j'en ai plein chez moi, qu'effectivement c'est pas bon.
Mais non.
Parce que,
Mais alors du coup, si j'imagine son étagère là de t-shirts, donc tu fais un rang où tu as tous tes t-shirts pliés, tu refais un rang par-dessus ou...
Non, en fait, t'as une boîte, et ce qu'il faut, je crois, d'après ce que j'ai compris, c'est avoir des étagères relativement... qui tiennent que la taille d'une boîte et tu tires ta boîte en fait, et dedans sont rangés tes trucs verticalement.
D'accord. Et tu fais comment pour les gros pulls ?
Ben, les gros pulls, on a essayé de les plier, ça marche aussi en fait, mais tu peux pas en mettre autant, quoi. Mais ça marche aussi.
Dans la boîte à chaussures.
Bah pas une boîte à chaussures, non. Il faut une boîte plus grosse. Mais tu peux avoir un truc qui est pas très haut. Mais boîte à chaussures, je pense que t'en mettrais deux. Mais en tout cas, le truc qui m'a étonnée, c'est que ça, j'ai l'impression que ça prend moins de place.
Oui, ça je veux bien le croire.
Et alors, c'est surtout le fait de trouver en deux secondes. Ça, c'est pour moi, c'est magique. C'est l'euphorie à chaque fois, je crois. En deux secondes, ça c'est vraiment super. Donc voilà. Alors, écoutez, vous pouvez. Elle a quelques vidéos sur YouTube aussi. Et puis ce livre-là que je vous dis encore une fois, comme il existe en poche, c'est pas excessif. Donc c'est l'art du rangement de Marie Kondo. Et le truc qui me fait marrer, c'est qu'elle appelle ça la méthode KonMari, je sais pas comment elle prononce ça. Alors ça, elle le remet 50 fois dans son livre. Quand on a l'impression que c'est du martelage. C'est acheter la lessive, dédule. Mais encore une fois, je trouve que ces principes sont vraiment super bons et ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. En tout cas, si vous êtes un peu débordé ou même pas beaucoup en fait, mais si vous avez le sentiment que vous retrouvez plus les choses, sa technique de rangement fait qu'effectivement, on a moins de choses et on sait exactement où se trouve tout. Ce qui nous fait gagner quand même pas mal de temps. Quand on y pense, le nombre de fois où on cherche, enfin moi perso, je cherche des affaires, sans parler des t-shirts que j'adore qui ont disparu. C'est une bonne chose.
Bon, écoute, fais-nous une update quand tu auras réorganisé la méthode KonMari. Quand on aura réorganisé toute ta maison.
Non, moi je vous tiendrai au courant. On va faire un petit journal du rangement de ma maison. Voilà. Bon, on écoute une petite musique après tout ça.
Petite musique à ta demande pour présenter ta prochaine rubrique. Je vais vous passer une vieille chanson. Ça date des années 80, je pense.
Oui.
France Gall, et la chanson c'est Cézanne Pain. Voilà. Enfin, c'est vieux ça. Hein.
Silence les grillons sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. Parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille.
Cézanne, justement, il y a une expo de ses portraits au musée d'Orsay, pour ceux qui risquent d'aller en France là prochainement, incessamment sous peu. Ah non, en fait, je vous fais une proposition pas très sympa, puisque ça s'arrête le 24 septembre. Il faudrait vraiment y aller tout de suite. C'était une exposition de...
Donc, écoutez l'émission, montez dans l'avion.
Voilà, hop là. Voilà. Oui, je disais à Anne-Sophie pendant la pause radio que les expos, j'étais à Paris en fait la deuxième quinzaine de septembre, ce qui est terrible parce que c'est la fin des expos d'été et du début des expos d'automne en fait, et du coup il y avait pas mal de choses qui étaient un peu sur la fin, il y avait des super titres d'expos mais qui étaient à venir, enfin bon, ça a été un peu frustrant comme expérience, j'ai pas pu faire vraiment mon fixe d'exposition.
Mais du coup, t'es quand même allé à Orsay.
Alors,
qui est mon musée préféré.
Alors, c'est justement, j'avais deux amies qui sont venues me rejoindre, une de Nantes et l'autre de Montpellier. Donc, on était ensemble au lycée à Paris, donc on avait toute l'habitude de traîner pas mal dans différentes expos et musées. Et du coup, à chaque fois qu'on se retrouve là-bas, on en profite pour traîner quelque part. Et puis dans les expos, il y en avait une à Maison Rouge, donc il y a une qui se trouve du côté de Bastille et qui est spécialisée en art brut, qui va malheureusement fermer en novembre ou octobre de l'année prochaine. De cette année, pardon, l'année de 2018. Et donc là, il y avait une expo, mais magnifique, qui s'appelait Enchevêtrement. T'aurais bien aimé, Anne-Sophie, ça t'aurait bien...
C'est vrai.
Ouais, je te montrerai, j'ai quelques photos. Donc c'est pas mal d'art brut, pas mal de... Mais des choses magnifiques, en fait, d'entrelacement, de fils, de fer, de tuyaux, des choses très, très, très belles. Et c'est un espace c'est un espace privé, hein, c'est du mécénat privé, et c'est pour ça qu'il arrête, la personne qui a monté cette maison, Maison Rouge, veut arrêter. Et
As-tu fait le musée de Quai Branly, le nouveau?
Non, parce que
j'ai toujours pas vu.
Ah, mais en fait, moi, j'avais un copain qui était directeur de la section des Amériques, donc il nous a fait visiter à plusieurs reprises. Et on est allé, par contre, parce qu'il est maintenant directeur du musée de l'Homme. Et donc, j'avais dû y aller quand j'étais toute petite. Et donc, j'y suis retournée, en fait, là, avec les enfants. Et c'était assez.
Ah, ils sont toujours au même endroit, alors, le musée de l'Homme.
Oui, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie des collections qui est partie au musée du Quai Branly.
Oui.
Et puis aussi une partie des collections de la Porte Dorée, tu sais, qui est de l'autre côté de Paris, qui était, je crois que le musée des Arts Premiers avant, et qui est maintenant le musée de l'immigration. Et donc ils ont toutes ces collections-là sont allées au musée du Quai Branly. En revanche, il reste toujours au musée de l'Homme tout ce qui concerne la préhistoire, ce qui concerne l'histoire de l'homme en fait.
Ah, donc ils sont toujours.
Ouais.
Ah, mais je suis contente que ça. Et c'est toujours les parquets en bois qui craquent.
Ouais,
vitrines en bois.
Non, là, tu serais déçue. Parce que justement, j'en ai parlé avec une de mes cousines, elle a été rénovée il y a 2 ans.
Ah bon.
Et donc, le côté. Un peu comme, tu sais, près de la Grande Galerie de l'Évolution, là, il y a ce musée. Est-ce que c'est de la paléontologie? En tout cas, avec tous les squelettes de dinosaures. Donc, non, ils l'ont modernisé. Alors, l'avantage, c'est qu'en muséographie, c'est bien foutu quand même. Tu vois, il y a des choses, parce que moi je travaillais en muséographie quand j'étais en France, donc je suis assez sensible à ce genre de présentation. On a fait une appli pour les enfants avec eux qui leur a bien plu. Et il y a des petits, par exemple, il y a une tête de squelette de néandertalien qui parle avec un homo sapiens. Voilà, il y a des discussions entre les deux. Il y a c'est présenté de façon assez ludique et assez intéressante aussi. Et esthétiquement très belle, c'est-à-dire que c'est pas trop chargé. Mmh. C'est fait un peu, tu vois, la mode de notre temps en fait, hein. C'est plus du tout effectivement. Donc bon, ça perd son charme effectivement, mais ça reste quand même un lieu intéressant. Et André Delpech, donc qui est le directeur maintenant du musée, me disait que dans sa candidature, parce qu'il l'est depuis peu, hein, depuis 6 mois, il disait que dans sa candidature, il avait appuyé sur le fait qu'il voulait que ce soit un musée militant. Hein. Donc par exemple, là, en ce moment, il y a une exposition sur le racisme qui explique en fait les préjugés, qui parle de moments où le racisme a atteint des pics qui ont fait que des gens ont perdu leur vie à cause du racisme. Ils expliquent, c'est une exposition très très intéressante. La génétique aussi, par exemple, qu'un caractère, ça se transmet pas génétiquement, tu vois. Enfin, en tout cas, quand on parle de caractère, c'est quelque chose de difficile à définir, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. J'ai ramené d'ailleurs pour accrocher ça dans mes toilettes pour que les enfants le voient, tout un papier avec plein de définitions, xénophobie, ethnocentrisme, enfin, tous ces termes, en fait, qui font qu'on a une vision du monde qui est une petite vision du monde, en fait. Et je trouve que c'est important en ce moment, parce que quand on est en Nouvelle-Zélande, on est quand même relativement protégé. Quand on arrive en France, on voit bien qu'il y a toujours ces soucis de racisme. Enfin bon, c'est quand même quelque chose qui est toujours très, très présent avec l'histoire de terrorisme. L'amalgame est fait de façon complètement... enfin bon, bref, ridicule, mais bon, donc c'est des sujets qui sont importants, c'est important de les aborder de tout temps, malheureusement, je crois que c'est un truc qui sera... Mais bon, donc il y avait cette expo là-dessus, et donc lui, il veut vraiment parler de sujets, qu'est-ce que l'homme dans la société, qui est l'homme, etc., et donc il veut parler de beaucoup de choses, il veut que ce soit un musée assez militant, en fait, qui va probablement déranger pas mal, hein, mais c'est une bonne chose, c'est aussi... C'est aussi une bonne vision des choses.
Je trouve qu'un musée, c'est un endroit où on peut aussi éduquer les gens.
Ouais,
donc je trouve que c'est approprié.
Ouais.
Non, pas approprié. C'est...
Oui,
ça a sa place.
Oui,
voilà.
Donc voilà, donc on a vu quand même ce musée-là. Et puis, on a vu le squelette de Lucille, la fameuse...
La première femme au bassin du monde.
C'est une... Comment on appelle ça? Mince, on m'échappe. Bon, tant pis, ça me reviendra. Oui, donc c'est super de voir un vrai crâne d'homme de Cro-Magnon. Enfin, bon, il y a quand même des choses assez assez impressionnantes dans ce musée. Mais et en plus, comme c'est pas très très chargé, et on les voit vraiment clairement. Mmh. Et ça va aussi, il y a une petite partie sur l'homme de demain. Donc combien de personnes il va y avoir sur la Terre, etc. Enfin voilà. Et puis petit détail. Petite cafétéria avec, bon, ce qu'on y mange, casse pas des briques. En revanche, la vue, c'est une tuerie parce qu'on est en face de la Tour Eiffel.
Ben oui, t'as la vue sur le Trocadéro.
Ouais, vue sur le Trocadéro, la Tour Eiffel, il y avait un petit soleil, c'était fantastique. Il y a une église orthodoxe qui a été construite. Les Russes ont racheté tout un terrain. On fait une église orthodoxe qu'on voit de partout maintenant, qui brille de mille feux. Donc voilà, quoi. C'est bon, ça vaut le coup d'y faire un tour. Et en tout cas, c'est instructif pour nous ou pour des enfants. C'est super instructif.
Mmh, super.
Alors donc, on s'était donné rendez-vous, nous, à Orsay, avec mes copines. Et moi, j'y allais un petit peu à reculons parce que je vois les étudiantes que j'ai ici qui apprennent le français, donc qui sont, et c'était pareil en Angleterre, hein, les Néo-Zélandais, les Anglo-Saxons sont très très férus de peinture impressionniste, ils adorent ça. Ils sont vraiment, et en fait, quand on a grandi à Paris, ben, on en a mangé l'impressionniste, quoi. On a bouffé,
Mais pas que à Paris, hein. Quand on a grandi en France.
En France, oui.
On bouffe de l'impressionniste à toutes les sauces.
Ouais. Et quand on dit à toutes les sauces, ça peut être sur la boîte de chocolat aussi.
Ah, mais carrément. dans la pub à la télé.
Voilà, oui, c'est partout. Et ça a été utilisé, réutilisé dans la pub, c'est vrai que c'est vraiment ancré, Et c'est malheureux quelque part parce que du coup moi j'en ai une sorte de nausée en fait, c'est dur à dire hein, mais c'est amusant, bizarrement il y a que Van Gogh qui me fait encore qui me parle encore un petit peu quoi. Alors je sais pas pour quelle raison, est-ce qu'il est plus spectaculaire, j'en sais rien. De mes amis me disaient mais regarde la couleur, on regardait un Monet, regarde-moi ça, c'est vrai qu'il y a des il y a quelque chose, mais c'est un peu malheureux, c'est que entre les danseuses de Degas, on peut encore découvrir, parce que j'ai une amie qui a fait la visite avec son fils, justement, elle me dit, on découvre encore plein de choses, il y a plein de choses qu'on sait pas sur les impressionnistes, notamment, il parlait des courses de chevaux en disant que, comme la photographie n'existait pas à cette époque, il savait pas du tout quel était un cheval représenté à l'arrêt. Quand il le peignit, il savait pas comment mettre les jambes, puisqu'on avait, à l'œil nu, on peut pas voir quelle position va avoir un cheval. Donc, il devait deviner de quelle façon les pattes se posaient, mais c'était complètement irréaliste, en fait, par rapport à... Puisque la photo n'existait pas, on n'avait pas moyen d'arrêter le mouvement du cheval. Donc, des choses comme ça assez intéressantes. Mais voilà. Et du coup, ça m'a un petit peu... Ça n'a pas été agréable. Bon, genre, les enfants, j'ai dû les traîner. Ils n'étaient absolument pas branchés par ça. C'est une horreur. Quoi, avec une mauvaise volonté évidente de leur part. Et le problème, c'est que je n'avais pas d'enthousiasme à leur transmettre. Je n'avais rien à leur dire. Voilà, il fallait les voir pour les voir. Et je n'avais pas la passion de la chose pour leur montrer. Alors, le musée d'Orsay lui-même, il est super beau. Hein, il est vraiment...
Ah ben oui. Puis il n'est pas trop grand, c'est ça que j'aime
aussi.
Il n'est
pas trop grand, effectivement. Il est à taille humaine. Oui. Et il a plusieurs niveaux. C'est une réussite, je trouve, encore aujourd'hui. Pas démodé, c'est quoi que je sois, les choses, je crois que le musée se démode pas vraiment, mais bon, en tout cas, il était vraiment, c'est un bel endroit, mais oui. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu malheureux. Et donc, on a vu les portraits de Cézanne, pareil, ça m'en. Ouais, je sais pas, ça m'attriste, en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de noter la différence entre l'enthousiasme des personnes à qui je donne des cours et cette espèce d'intérêt, mais je pense que t'as raison, c'est parce qu'on a ça dans notre quotidien, que ça a été vulgarisé, en fait, utilisé, réutilisé, on se l'est réapproprié, et effectivement, il y a une espèce de fatigue, en fait, de lassitude avec,
Mais moi, le poster des nénuphars, dans toutes les brasseries de France, non mais c'est ça, hein. Soit les nénuphars, soit les tournesols de Van Gogh. Non mais on les voit partout, quoi. Ça devient saoulant. Ouais. Pour peu qu'il y ait un article sur l'art dans un Télérama ou un machin, ils vont forcément nous parler des impressionnistes une fois sur deux. Enfin c'est.
Et moi ce qui m'épate toujours, c'est que dès qu'il y a une expo, il y a une queue mais monstrueuse, quoi.
Ben oui.
Ouais. C'est assez... Alors, il y a aussi le fait que certains tableaux aient été vendus super cher. Il y a aussi tout ce truc-là. Et je pense que dans le monde anglo-saxon, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est parfois attiré par ça. Les prix exorbitants de certains tableaux impressionnistes ou post-impressionnistes. Je sais pas, qui font le buzz.
Disons que les impressionnistes ont créé, ont ouvert la porte à l'art qu'on connaît aujourd'hui. Mmh, c'est-à-dire qu'ils ont clôturé l'art qui était coincé dans les ateliers, allumé à la chandelle, où on passait des mois sur une peinture. Mmh. Je pense un classique, le radeau de la Méduse, ou des trucs comme ça, où vraiment tout est marron, tout est fait d'après des modèles qu'ils posent dans l'atelier. Mmh. Et puis ils ont pris leur palette, leur pinceau. Et leur tableau, et ils sont partis dehors. Oui. Ils ont changé la lumière, ils ont changé les couleurs, ils ont même changé la peinture en elle-même, puisque c'est grâce à eux qu'on a les tubes de peinture maintenant. Enfin, ils ont même changé les pinceaux, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a le Philibert. Donc, ils ont tout changé, et ça, c'est vrai, quoi. Mmh. Mais au bout d'un moment, oui, c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses aussi. Je pense que ça a le même impact que du Buffet quand il a mis ses toilettes.
Deschamps,
oui, voilà. J'étais pas sûre du bon coup. Deschamps avec son urinoir.
Oui, voilà.
Qui a soudain ouvert la porte à l'art conceptuel et qui a proposé une question où qu'est-ce que l'art et qu'est-ce qu'on met comme art. Donc les impressionnistes, ils sont importants dans un contexte d'histoire de l'art.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on en pouffe à toutes les sauces. Oui. Et puis ça commence à faire vieux maintenant.
Oui,
hein.
C'est vrai, ouais.
Depuis, il y a eu tellement de choses au niveau art. On parle de quoi là maintenant?
Il y avait la Biennale, quand on est passé, je ne suis pas du tout allée voir ça, parce que moi, les galeries, j'aime pas trop ce qu'ils présentent en général, mais je ne sais pas du tout où on en est en ce moment, j'avoue. Ouais.
Non, mais c'est quoi? C'est 300 ans? 200?
Oui, parce que c'est 19e siècle, donc c'est 20e, oui, on va dire 150-200.
Ouais, 200, bon ben... Il s'en est passé des choses,
oui,
quoi.
C'est vrai aussi quand tu dis que ça a été la porte, parce que tout ce qui a suivi derrière, le cubisme, etc., ça a été enclenché avec ça, quoi. C'est vrai qu'ils ont, ça a été révolutionnaire, en fait.
Ah ben, ça a été révolutionnaire.
Dans le monde de la peinture.
Absolument.
Ouais.
Mais
c'est marrant parce que le 19e siècle, moi, c'est une période que j'affectionne particulièrement, en littérature aussi. Il y a une vie artistique qui s'est perpétuée, qui a continué sur le début du 20e siècle aussi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, quand on est parisienne, c'était un endroit où les échanges intellectuels étaient hallucinants entre peintres, poètes, écrivains. Enfin, il y avait quand même... on a plaisir, je crois, aussi à imaginer la vie telle qu'elle était, les échanges qu'il y avait à cette époque-là.
Mais il y a d'autres groupes qui ont aussi fait des grosses vagues, mais qui sont moins mises en valeur que les impressionnistes. Je pense par exemple au niveau de la couleur, les fauvistes ont fait un travail monumental.
Qui plus d'ailleurs, qui est assez.
Les Bauhaus au niveau du design et de la composition et de la structure monumentale aussi. Ouais. D'ailleurs, on approche des 100 ans du Bauhaus, donc on devrait en entendre beaucoup parler. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'expositions dans les deux prochaines années. Ouais. Mais les impressionnistes, ça reste. Je sais pas.
Oui, on l'a trop resservi justement nous on est allé voir un peu sous une autre forme. Je sais pas, on va peut-être écouter une petite musique avant d'en parler, mais peut-être que justement il y a moyen de, avec notamment on en parlera après la musique peut-être.
Ouais. Alors, puisqu'on a démarré avec France Gall et qu'on fait dans le Yéyé 80, je continue. Allez. Alors, je vous propose France Gall, il jouait du piano debout.
Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats font garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Il était patriote, il serait mort du genre de neuf. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout. Il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux. Ça
voilà, France Gall, c'est bon, on s'est fait notre petite
revival,
ouais, hein. Recharge de France Gall. Oui, donc alors je disais une expérience, et donc on parlait de, justement du fait que c'était presque un peu galvaudé cette histoire de, d'impressionniste. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense aujourd'hui, c'est de le présenter de façon différente, et c'est un peu ce qu'on a vu avec à Paris, à la Villette. Ils ont fait. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais ils ont fait dans la grande halle de la Villette, ils avaient des grands panneaux énormes sur lesquels ils projetaient des tableaux de Van Gogh. Et sur de la musique, de Satie, enfin bon, de Prokofiev, enfin il y avait pas mal de musiques différentes. Et donc on pouvait s'asseoir dans l'exposition. Ça s'est arrêté le 10, donc on a vu on y est allé le dernier jour. Et le 10 septembre. Et donc, ce qui était très très intéressant, c'est qu'en fait, on est à l'intérieur du tableau, puisqu'il s'est projeté partout, tout autour. Il y en a au milieu, enfin, il y en a un peu partout. Donc, on peut se balader, on peut s'asseoir, rester à regarder les tableaux changer, parce qu'on ça change de tableau. On voit aussi, parce que c'est en très très gros plan, on voit aussi on voit les traits en fait de la peinture. C'est donc, on rentre vraiment, c'est comme si on regardait un tableau à la loupe. Donc c'était assez intéressant de vivre cette expérience-là. Et d'ailleurs, on est allé ensuite voir le musée d'Orsay. Je leur ai dit, voilà ce que vous avez vu en très grand. Voilà la taille du vrai tableau. Et c'était d'autant plus intéressant dans mon cas, c'est que j'ai des enfants qui sont ici, donc ils vont pas aussi souvent au musée que les enfants en France, qui vont souvent visiter des musées en classe, etc. Et j'avais envie de leur montrer quelque chose d'un peu plus spectaculaire. En fait, je me suis dit, ça les accrochera plus, ça leur parlera plus que de voir un tableau qui bouge pas, qui est petit. Et donc, ça a été une expérience qu'on a vraiment, vraiment appréciée avec les enfants, et ma sœur aussi a beaucoup aimé. Alors donc, en autre façon d'aborder, en utilisant des technologies qui sont celles d'aujourd'hui, il y a aussi la réalité virtuelle, et notamment le musée virtuel Utrio Valadon, où en gros, c'est une application en réalité virtuelle qui montre l'atelier des peintres parisiens Maurice Utrio et Suzanne Valadon. Donc ça a été fait en coproduction avec la société Arforia et le musée de Montmartre. Et donc c'est maintenant disponible, ça l'est depuis 2016 déjà. Et donc voilà, ça c'est la réalité virtuelle. S'il y a une autre façon aussi, bon alors là en l'occurrence on n'est pas dans la peinture, on est dans l'atelier, mais ça se fait aussi avec les peintures. Donc c'est peut-être une autre façon, peut-être pour nous habitués aux boîtes de chocolat Renoir, de revisiter un peu ces impressionnistes qu'on a vus et revus, et peut-être d'expérimenter ça sous un angle complètement différent, en profitant des nouvelles technologies qu'on a.
Avec Utrio et Valadon, on est plus post-impressionniste,
oui,
non?
Oui.
Mère et fils d'ailleurs.
Étrange, d'accord, oui, je ne me
souviens pas du
rapport
entre elle
les deux.
Elle l'a eu très jeune.
D'accord, oui, okay.
Fils illégitime, je crois.
Oui, ça y est. Ouais. Ça me dit quelque chose.
C'est quand tu m'as dit, pendant la chanson de France Gall, tu m'as dit le nom, j'étais là, ça me dit quelque chose. J'ai enfin de recaler.
Oui, je me souviens d'avoir lu quelque chose sur leur relation très particulière.
Ouais. Elle était peintre et donc, pas lui aussi. Ouais. Intéressante histoire.
Donc voilà, il y a quand même oui, peut-être un moyen de revivre ça, parce que moi là ça a été pas traumatisant, mais ça a été un peu parce que je suis pas restée longtemps à Paris, du coup j'ai pas pu aller dans beaucoup de musées, d'autant plus que, comme je le disais, tous les musées sont un peu en transition à cette période de l'année. Donc ouais, je me suis dit, oh, j'aurais mieux fait de me faire le Louvre, parce que là pour le coup j'étais sûre de trouver
Et Beaubourg, j'essaie toujours de me faire Beaubourg, ouais. Parce que c'est quand même une opportunité, c'est vrai.
T'es pas,
tu t'es pas fait?
Non, parce que c'était Hüchner qui était là-bas et en exposition. Mmh. Et la copine avec qui je voulais y aller, elle m'a dit ça m'intéresse pas de voir les piscines de ses copains milliardaires. Elle était super remontée contre ce qu'ils faisaient. Donc, du coup, on n'y est pas allé.
Oh, voilà, c'est dommage, parce que David Hüchner, quand même, c'est, ouais. Et puis, c'est des super œuvres d'art. Quoi.
Et puis, à Beaubourg, il y a une collection permanente qui est vachement bien aussi.
Oui. Très très intéressante. Et puis il y a surtout un bookshop qui me coûte généralement très cher. C'est une catastrophe. C'est le plus gros, c'est le plus complet des bookshops qu'on peut trouver en art, en théorie d'art, en histoire de l'art. C'est fabuleux. Ouais. Hein. Non, plus c'est une bibliothèque monumentale.
Oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Donc oui, je sais pas. Et puis un autre endroit moi que j'aime beaucoup, c'est le Louvre, parce qu'ils ont cette espèce de fond inépuisable en fait d'art en tout genre, quoi, de tableaux de différentes époques. Mais j'aime bien traîner là-bas dans le Louvre. Je sais pas, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Peut-être pas la pyramide et tout ce qu'il y a en dessous, tout le bordel en dessous, mais en tout cas dès qu'on rentre dans le musée, je trouve qu'il y a quand même des.
Mais tu sais que je l'ai pas fait beautés. Depuis la pyramide. Je sais pas du tout. J'ai fait l'ancien. Je crois que ça m'a gavé tous les ans. On partait en voyage de classe. Du coup, je l'ai pas refait depuis que j'ai 15 ans.
Je me souviens d'avoir fait des belles glissades dans la galerie égyptienne. C'est des trucs. Pauvre professeur. Mais oui, c'est vrai que c'était un peu le passage obligé, mais. Je trouve que souvent ils ouvrent des nouvelles salles. Enfin, il y a quand même.
Faudrait que j'y retourne. Ouais.
Ouais. Et il y a quelques tableaux là-dedans que j'adore.
Un autre musée que je recommande, qui est tout petit, c'est un hôtel particulier, c'est le musée Rodin.
Ah oui,
qui est magnifique. Alors déjà l'hôtel particulier est magnifique et il y a un grand jardin autour avec des sculptures donc dehors et puis sculptures à l'intérieur et surtout l'architecture de l'hôtel particulier est superbe. Ouais.
Et c'est vrai que c'est un lieu vraiment empreint d'une grande grande poésie. Moi, j'adore cet endroit.
Ah oui.
C'est un endroit où on a envie de flâner, où on a envie de rester, rêver.
C'est calme.
Ouais. Donc voilà, écoutez, donc bon, il y a quand même encore beaucoup à faire à Paris, et pas forcément les impressionnistes, et pourquoi pas les impressionnistes, à chacun ses goûts après tout. Ouais. Donc on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure,
et on se quitte sur Poupée de cire, une vieille chanson de France Gall.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir. Peut-être pas poupée de cire.
Ça n'a pas envie.
Ah si, ah bah voilà, elle avait envie, mais elle était, je sais pas, elle met du temps.